Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, puis 21h.
Marie Richaud.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Il y a toujours du passé fiché dans le présent, écrivait Walter Benjamin. Alors, il y a du 1956 dans 1996, c'est comme ça. Il y a aussi du 1996 dans 2018, c'est comme ça. De même, il y a toujours des absents dans l'assemblée des présents. Ils sont plus ou moins douloureux, on les entend plus ou moins pleurer dans le silence. Ils parlent une langue que l'on comprend plus ou moins bien. En ce moment, sur la scène des ateliers Berthier Odéon à Paris, un restaurant sert de la soupe vietnamienne. Mais il suffit que le néon clignote pour que d'une seconde à l'autre, nous soyons à Saïgon, 2 ans après la fin de la guerre d'Indochine, pour y vivre une 10e fois le dernier soir. Il suffit aussi d'une chanson pour que les larmes s'en mêlent autour des disparus et que se crée une communauté de chagrin et de paroles. Caroline Guéla Nguyen, vous mettez en scène Saïgon au Théâtre Odéon de l'Europe, donc Atelier Berthier, c'est à Paris, et c'est jusqu'au 10 février. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Ce spectacle sera ensuite en tournée, je donnerai les villes tout à l'heure.
C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Lam. C'est moi que vous voyez en train d'essuyer cette table-là. Vous allez me voir partout. Celle que vous voyez en cuisine, c'est ma tante. Elle s'appelle Marie-Antoinette. On lui a donné ce nom-là à Saïgon, le nom d'une impératrice, une reine. Ici, c'est son restaurant. C'est elle qui fait à manger tous les jours. Tous les soirs, après la fermeture, Marie-Antoinette pleure. Mais ça, personne ne le sait.
C'est le tout début quasiment de votre spectacle Saïgon et c'est presque la première chose qu'on entend distinctement, c'est moi qui vous parle. Peut-être pour placer votre ambition à l'endroit de la parole, Caroline Guéla Nguyen, c'est quoi justement? Quelle est la place de la parole dans le travail que vous faites, de la prise de parole?
Déjà, c'est totalement lié aux gens que, bien sûr, j'amène sur le plateau. C'est-à-dire que, concrètement, je n'écris jamais, moi, avant de savoir quels sont les visages et quelles sont les voix qui vont participer au spectacle. J'ai besoin que les gens me renseignent sur leur façon de parler. Par exemple, effectivement, il y a le personnage de Anne, mais là, après... Je vais aller plus loin quand même dans cette question, parce qu'effectivement, sur Saïgon, il y a énormément de niveaux de parole. En tout cas, il y a énormément de niveaux de langue, même plus que et le français d'un côté et le vietnamien de l'autre. Mais quand même, juste pour parler d'un point de vue du processus, mais qui est important pour moi, c'est que, en fait, voilà, Anne, elle a ce français, par exemple, qui est le sien, qui me renseigne sur l'endroit où elle a vécu. Elle a été cuisinière, donc par exemple, je sens que quand on est dans la cuisine, qu'elle parle à l'âme en français, de tous les ustensiles qu'il faut qu'elle lui donne pour faire une soupe faux, tout d'un coup, elle est dans les mots. Et tout d'un coup, quand il s'agit d'exprimer autre chose, elle cherche plus ses mots. Enfin, voilà, que tout d'un coup, la langue, dans la langue, vient s'imprimer très clairement la vie de quelqu'un. Voilà. Et donc, en ce sens, moi, c'est vrai que je ne peux en aucun cas devancer cette écriture. C'est-à-dire que ce sont encore une fois les êtres humains, les personnes que je ramène sur un plateau, qui vont me renseigner sur ça. Donc, finalement, avant de parler de la parole, pour moi, tout le travail, c'est de savoir qui on a envie d'entendre parler. Et moi, c'est vrai que mon goût, mais c'est même mon moteur d'écriture, mon moteur d'imaginaire, il est absolument tiré vers... des gens qui, a priori, ne sont pas faits pour te rencontrer, ou en tout cas, il y a une altérité même dans la parole, qui ne parlent pas de la même façon. Enfin, c'est peut-être pour le coup mon côté un peu bourdieu, et qui se rencontrent et qui tentent de construire une histoire en commun. Donc je m'amuse comme ça à aller chercher voilà, des gens qui me parlent du monde tel que j'ai la sensation qu'il existe dans sa pluralité autour de moi. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, sur Saïgon, se pose une question plus précise, c'est que il y a plein de niveaux de langue, effectivement. Donc, moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, donc ma mère est Viet Kieu. Viet Kieu, ça veut dire littéralement vietnamienne étrangère. Et quand j'ai toujours pensé que ma mère parlait le vietnamien et que moi, je parlais le français et que je parlais pas le vietnamien, voilà. Et en réalité, quand je suis allée au Vietnam, je sais plus exactement quand, dans un de mes voyages, je me suis rendu compte que ma mère, elle était dans un marché, qu'elle commandait des fruits, et que les femmes se moquaient d'elle, et j'avais demandé à mon traducteur pourquoi il voulait au début pas me le dire. Puis en fait, elle m'a dit, mais en fait, c'est parce que ta mère, elle parle un vietnamien qui n'existe plus. D'un vietnamien de 56, quand elle avait 15 ans, qu'elle a quitté le Vietnam, puis le vietnamien, de ce que je comprends, c'est une langue, voilà, qui bouge beaucoup, il n'y a pas l'équivalent par exemple de l'Académie française qui viendrait tout d'un coup ancrer comme ça, enfin inscrire les mots de façon permanente. Non, ça bouge et donc du coup des gens qui sont partis pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand ils reviennent, ils redécouvrent une langue en fait. Et donc ma mère a en quelque sorte une langue d'apatride, c'est longtemps ce que j'ai dit, et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Et donc encore une fois, là aussi par exemple dans la langue vient s'inscrire quelque chose de l'histoire. Donc il y a ça, et donc ce qui fait qu'en fait, en réalité, déjà, il n'y a pas que le français et le vietnamien, il y a le français, il y a le vietnamien des vietnamiens, donc des jeunes vietnamiens qui sont sur le plateau qui parlent un vietnamien de 2018, on va dire, et il y a ces Viet Kieu qui parlent un vietnamien de 1956, qui est peut-être un vietnamien des vietnamiens de France, voilà. Et puis après, il y a encore à l'intérieur de ces Viet Kieu d'autres niveaux de parole, parce que par exemple, le personnage de Marie-Antoinette, on pourrait dire qu'elle est comme coincée entre deux langues.
Alors Marie-Antoinette, c'est la tenancière de ce restaurant dont on dira tout à l'heure qu'il a plusieurs géographies et plusieurs temporalités. Oui. Mais en effet, c'est une sorte de personnage passage entre les espaces et les temps, et elle est coincée entre deux langues. Dites-vous pourquoi ?
Je vais pas répondre à cette question très clairement parce qu'en fait, je j'ai pas envie de tomber dans une analyse psychologique de ça, mais par contre, je vais vous raconter une histoire. C'est que, vous savez, dans le camp, les Vietnamiens, quand ils sont arrivés en 56, ils ont été dans un camp, pour la plupart, le camp de Bias, puis après le camp de San Livrat, c'est ce que j'explique d'ailleurs à un moment dans le spectacle. Puis après, ils ont été évacués, ils ont été mis tous au camp de San Livrat, puisque dans le camp de Bias, il y avait la Harki qui arrivait. Mais soit, je suis retournée là dans ce camp où ma mère est arrivée d'ailleurs, là, il y a 2 ans, puisque c'était les 60 ans de ce camp. Et je suis arrivée là et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens, où en fait, c'était des petits baraquements comme ça, vraiment de fortune, qui avaient été montés. Donc, ils sont arrivés du Vietnam et boum, tout de suite dans le Lot-et-Garonne. Et en fait, qui n'ont jamais voulu quitter ce lieu-là. Ils n'ont jamais voulu quitter cet espace-là. Voilà, en fait, si je vous raconte ça par rapport à la langue, c'est est-ce que quand on quitte une langue, est-ce que quand on est sommé d'apprendre une langue, est-ce que quelque part il y a quelque chose de nous qu'on abandonne, qu'on a peur de quitter ? Est-ce que quand on récupère une autre langue, on n'a pas l'impression d'encore plus quitter son espace, sa terre ? Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout ce paysage de problématiques qui se développe en fait à l'intérieur de la raison pour laquelle cette femme est coincée entre deux langues. Mais en même temps, enfin voilà, moi ce terme de vietnamien étranger, est-ce que c'est déjà pas coincé entre deux choses ?
D'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de souligner cette première phrase qui est prononcée distinctement, en tout cas qui pour nous, spectateurs français, la première qu'on attrape, c'est moi qui vous parle dans votre spectacle Saïgon. Ça inaugure tout ce que vous venez de dire là, à savoir tout ce qu'il y a dans le fait de prendre la parole. Alors des paroles, vous en avez aussi recueilli, vous êtes aussi allé en écouter pour qu'on vous raconte des choses. Quelles ont été vos questions ?
Alors, en vérité, le travail que l'on a fait avec ma compagnie d'enquête, c'était pas uniquement que de la récolte de témoignages qui serait après venu en fait être mis en récit. En fait, c'est pas exactement comme ça qu'on l'a perçu. En fait, on a ouvert une enquête sur des territoires. Déjà, c'est un peu différent pour moi de dire qu'on ouvre l'enquête sur un territoire plutôt qu'on ouvre l'enquête sur, par exemple, une soi-disant communauté ou des personnes qui seraient habitantes à Torcy ou à Ho Chi Minh-ville. Donc, à partir du moment où on s'occupe d'un territoire, bah, en fait, on regarde les gens, effectivement, et bien sûr, je les ai regardés, je les ai écoutés. Il y en a que je n'ai fait que regarder aussi et qui m'ont tout autant inspiré des fictions dans le regard que j'avais sur eux que certaines personnes qui m'ont parlé. Mais on écoute aussi, on écoute des chansons, on regarde aussi ces fluos qui sont constamment allumés, on regarde ces fleurs artificielles qui ont remplacé les vraies fleurs dans le 13e arrondissement de Paris par rapport à Ho Chi Minh-ville. Et donc, en fait, avec mon créateur, mes collaborateurs qui font partie de ma compagnie, les hommes approximatifs, voilà, donc Alice Duchamp, Jacques Sénograve, Benjamin Moreau, Antoine Richard, Jérémy Papin, Claire Calvi, Jérémy Chadler, enfin voilà. On a travaillé ensemble à aller vraiment récolter une émotion, en fait. Une émotion, des voix, des visages, des chansons. Voilà, donc...
Je disais avec quelles questions. C'est-à-dire qu'en effet, on peut ouvrir des enquêtes sur des territoires, mais on avance, aussi libre soit-on, avec des hypothèses, avec des interrogations, avec des blancs, avec des choses à récolter. Qu'est-ce qui vous mettait en mouvement, tous?
Alors, pour y aller, justement, je m'étais amusée à faire en fait, une espèce de grande enveloppe dans laquelle j'avais chiné. En fait, j'ai une espèce de petite passion. C'est qu'en fait, j'adore chiner des vieilles photos sur eBay. Et donc, des gens, ils vendent des stocks de photos comme ça, de leur vie, ça m'impressionne toujours et j'adore les récolter. Voilà. Et donc là, bah, je me dis, bah, tiens, je vais faire ça avec l'Indochine. Donc, j'ai tapé 1956, photo Indochine, photo Saigon. Et là, il y a quelqu'un qui m'a vendu, donc je connais pas le nom, parce que sur eBay, c'est des pseudos. Il m'a vendu tout un lot de photos, dont une espèce de grande photo avec un bal, d'un bal, en noir et blanc. Et il y avait dans ce bal, on voit que c'est un bal chez des colons. D'après moi, c'est au Majestic. Enfin, bon, voilà. Mais rien n'est sûr, vraiment. Je ne pourrais même pas réellement dater cette photo. Mais elle pourrait à peu près être dans la période. Et donc, en fait, je me suis amusée à récolter pas mal d'indices, comme une enquête policière, que j'ai envoyée, en fait, à chacun de mes collaborateurs. Et en fait, moi, j'allais rencontrer les gens et je demandais aux gens de me parler de cette photo. Donc déjà, si je vous dis ça, c'est que justement, j'allais pas tout de suite vers les gens, disais bon, bah, allez-y, racontez-moi votre vie, s'il vous plaît, je travaille sur la colonisation ou je travaille sur le Vietnam. En fait, je n'arrive pas à rencontrer les gens dans cet espace si frontal-là. Par contre, en fait, j'ai besoin de développer avec eux une forme d'imaginaire, mais même de jeu, qui les protège, qui me protège et qui en même temps, des fois, permet aussi d'aller plus loin. Et donc, ils me parlaient, mais il y a des gens qui se sont amusés avec ça et qui m'ont raconté des choses justement d'eux, très précisément, parce que quelque part, c'était pas eux. Et donc voilà, j'ai écouté ces personnes-là et j'ai écrit des histoires, mais encore une fois, par contre, il y a une chose que je voudrais dire, c'est important, c'est que, en fait, Saigon, ça n'est pas un spectacle qui est... c'est un spectacle qui est documenté, évidemment, on a lu plein de choses, mais ça n'est pas un spectacle documentaire, enfin, c'est très clair pour moi que, en fait, je suis très friande de fiction. Et d'ailleurs, même, vous avez mis la première chose qu'on entend dans le spectacle. Je trouve que ça donne l'indication que c'est une fiction. Et c'est vrai que c'est marrant, je me suis dit ça. Je me dis, mais comment ça se fait que les gens, souvent, je lis ou j'entends que c'est quelque chose de documentaire. Et je me dis, mais alors, est-ce que, justement, c'est comme, tout d'un coup, je repensais à Céline Sciamma qui avait fait Bande de filles. Je fais un petit détour, hein, mais qui avait fait Bande de filles. Et en fait, on l'avait beaucoup attaqué, Céline Sciamma, parce que tout d'un coup, la chose était esthétisée, il y avait une histoire, tout ça. Et je me dis, mais en fait, c'est comme si finalement, quand on allait dans les banlieues, fallait y aller caméra à l'épaule, aucun filtre. Enfin, que tout d'un coup, on n'avait pas le droit de déplacer de l'imaginaire, de la fiction sur certaines personnes. Que certaines personnes devaient être absolument clouées au réel et qu'on devait uniquement faire, nous, un geste de ramener ce réel-là, point. Ben non, en réalité, moi, franchement, Saigon, vraiment, je me suis amusée à imaginer, mais tout en étant inspirée fortement de ce que j'ai vu, de ce que j'ai écouté. Mais c'est de l'imaginaire.
Alors, qu'est-ce que ça dit ? C'est intéressant que vous souligniez ça. Qu'est-ce que ça dit précisément que l'on note le pouvoir de la fiction à certaines catégories de personnes et que d'une certaine manière, on accepte de les voir sur un plateau de théâtre ou à l'écran de cinéma qu'à la condition que la véracité, que inspirée d'un fait réel, ne soit pas très loin ?
Ben, je me pose la question. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, j'aurais envie de répondre à cette question en me disant que peut-être qu'en fait, l'imaginaire est beaucoup plus dangereux qu'on le pense au final. Que finalement, c'est peut-être pas ce qu'on prétend être le réel qui est très, très dangereux, ou qui est très subversif, ou qui nous renseigne, ou qui nous... Que finalement, c'est peut-être justement notre capacité de mettre des gens en récit, de nous ouvrir à nous, c'est-à-dire de vraiment de se dire bah alors mais qui c'est cet homme qui chante dans un karaoké et comment on ouvre de l'imaginaire derrière ça qui tout d'un coup devient peut-être plus politique aujourd'hui.
Mais parce que c'est pourvoyeur d'égalité. En vous écoutant, je me dis mais finalement décider que l'imaginaire ou la fiction peut naître à partir de n'importe quel être humain, c'est-à-dire décider que de plein pied chacun des êtres humains sera égal.
Ah bah oui.
Non mais c'est vrai, non mais c'est peut-être ça, je sais pas, en vous écoutant, je me dis d'une certaine manière, c'est le geste que vous faites.
Tout à fait. Mais vous savez, en réalité, je suis assez surprise moi-même en fait de cette... C'est-à-dire quand on a créé Saïgon, on ne s'est pas dit, enfin on ne s'est pas formulé ça, vraiment, moi j'étais dans une volonté de... Enfin voilà, de créer des histoires comme j'en ai créé jusqu'à présent. Et je ne me rendais pas réellement compte de ça, du fait que tout d'un coup, d'insuffler l'imaginaire avec ces gens-là, bah, il y avait quelque chose d'un peu étonnant. Enfin, voilà.
Au début, je faisais un plan du décor, j'avais des soldats de plomb, et je me disais alors, parce que je croyais encore que l'important c'était de savoir par où les gens rentraient, et s'ils devaient se déplacer sur telle réplique ou sur telle autre, que je croyais que c'était important de décider à l'avance. Quel pas et quel déplacement devait faire un comédien, voilà. Et ça, bon, heureusement, dès le deuxième spectacle, déjà, je m'étais aperçue que c'était pas ça, que évidemment, les déplacements, y compris les entrées, même fracassantes et belles, se trouvent sur le sentiment, comme dirait Jouvet. C'est-à-dire que c'est l'État qui dicte tout, c'est le texte qui dicte, et que si un acteur éprouve telle émotion, il aura ou pas envie d'avancer. Et que si vraiment il fait un déplacement inutile, c'est qu'il se trompe de sentiment, mais que s'il a le sentiment juste, il ira exactement à l'endroit qu'il faut. Le sentiment qui naît soit de l'improvisation, soit du texte.
C'est la voix d'Ariane Mnouchkine en 1998 dans un entretien à voix nue avec Marie-Christine Navarro sur France Culture pour vous faire parler précisément de l'espace que vous choisissez de planter sur scène et de la présence des personnes et de la manière dont ils l'habitent, Caroline Gulla Nguyen. Alors, on entend Mnouchkine dire qu'au départ, elle écrivait tout et qu'elle s'est rendue compte que finalement, il fallait davantage faire confiance à ce que sentaient ses comédiens. Qu'est-ce qu'il en est de votre travail à vous ?
Ah oui, alors là, pour le coup, moi, je suis vraiment incapable d'écrire. La seule chose, en fait, que j'écris... avant les comédiens, mais en réalité, c'est en fait le lieu, justement, c'est l'espace. Mais parce que moi, l'espace, c'est vraiment ce qui me donne des indications de fiction. En fait, Saïgon, c'est vraiment né d'un désir très naïf qui était qu'un jour, on était dans un énième restaurant vietnamien avec ma compagnie, qu'on devait débriefer sûrement d'un dernier spectacle qu'on devait faire, et qu'un jour, je leur avais dit, et qu'on était là, je disais, mais moi, j'adorerais imaginer des histoires dans un restaurant vietnamien. Et en fait, ça m'est resté, je me suis dit, mais en fait, il faut faire ça, mais aussi, tout simplement, alors oui, d'accord, c'est parce qu'effectivement, je suis liée à ça, de ça par rapport à ma mère, mais même aussi très architecturalement, le fait qu'il y ait la cuisine, le fait qu'il y ait ce hors-champ, le fait qu'il y ait la salle de restaurant, enfin vraiment d'un point de vue très, très concret, quoi, d'utilisation de l'espace, de jeu que permet le restaurant, voilà, dans l'espace. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, je ne peux pas écrire, mais ça revient un peu à ce que je vous ai dit avant, en fait. Je suis incapable d'écrire avant. J'ai vraiment besoin, donc quand on parlait de parole, c'est-à-dire que je ne pouvais pas écrire avant Anne, Quelque part, je ne peux pas me déplacer avant elle non plus. J'ai vraiment besoin de passer des longs temps avec les comédiens en tête, avec même qui me parlent, mais même de les regarder des fois en dehors des répétitions, non pas pour leur voler du réel, mais pour voir un peu la façon dont tout d'un coup ça parle, dont ça se déplace, dont ça rigole à l'extérieur du plateau pour après m'en inspirer, parce que vous savez, des fois le plateau, il peut être un espace inhibant où tout d'un coup je ne retrouve plus personne. J'ai tout le monde en coulisses et j'arrive au plateau, il n'y a plus personne, dans le sens où tout d'un coup tout le monde ne se retrouve plus. Il y a un grand chemin à faire des fois pour pouvoir se retrouver, se réconcilier en quelque sorte avec ce qu'on est pour commencer à inventer des histoires au plateau. Et donc voilà, du coup des fois je sais que quand je suis un peu perdue, finalement je regarde beaucoup comment ils sont comme ça dans les coulisses, d'un côté, bon bref. Et après, voilà, en fait, c'est un jeu d'aller-retour. Je ne pourrais pas dire non plus, ça serait faux de dire, moi, je ne fais rien, j'attends, et puis j'accompagne uniquement le geste. Enfin, c'est pas vrai. C'est-à-dire, encore une fois, c'est toujours un aller-retour, mais comme cette photo dont je vous ai parlé. En fait, finalement, c'est toujours un aller-retour pour moi entre le réel et la fiction. J'ai absolument toujours besoin d'être ancrée dans le réel pour toujours avoir besoin de la fiction, et la fiction me ramène toujours à du réel. Enfin, c'est cet aller-retour-là qui m'intéresse et qui me fait bouger. Donc voilà, des fois, Ariane Mouchtine, elle disait, enfin, je sais plus en fait si c'est, pardon, je vais peut-être être approximative par rapport à la citation qu'elle vient de dire, mais que c'est Jouvet, c'est ça, qui disait que du coup, si le comédien sentait instinctivement qu'il devait aller vers cette émotion-là et ce déplacement-là, il le ferait. Je pense que sur certains cas, c'est vrai. Et puis, certaines fois, en fait, je pense que de l'extérieur, on peut percevoir des choses qui fait que, en fait, je me dis, mais non, si, justement, je sens que le comédien, je sais que, quelque part, je peux lui révéler quelque chose de lui. Et voilà, c'est un jeu d'aller-retour entre lui et moi. Par contre, quand même, je voulais dire une chose, parce que je travaille avec des comédiens amateurs et que ça aussi, c'est des fois, ça m'apprend quand même beaucoup. Enfin, ça m'apprend beaucoup, pardon. C'est que Anne, par exemple, pour la citer, qui est donc la cuisinière, je sais que il y a quand même des moments où elle est assez étonnante sur. Bon, c'est tout bête, mais par exemple, à un moment, il y a un comédien qui renverse une table et il y a tout qui est par terre, bref. Et je lui avais dit, moi, j'aimerais bien, Anne, à ce moment-là, comme après, elle va lui annoncer qu'elle est enceinte, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose d'un peu, comment dire, une annonce qui se passe en fermeture de restaurant où on passe le balai ou, enfin, voilà, pas du tout quelque chose de romantique, justement. Et je dis, est-ce que tu pourrais passer la serpillière, ramasser avec la pelle et tout? Et elle le faisait jamais. Elle oubliait rien, ça elle ne le faisait jamais. Et en fait, tout simplement, je me suis rendu compte, c'est parce qu'il y avait rien dans les assiettes, que rien n'était tombé par terre, elle n'avait rien à essuyer, donc concrètement, elle pouvait pas penser à le faire. Donc voilà, enfin, c'est juste, tout d'un coup, je me dis, c'est beau comme finalement, elle est prête à nous faire croire plein de choses, mais pas tout. Enfin, c'est-à-dire, elle a besoin quand même qu'il y ait, voilà, une accroche comme ça. Et donc voilà, donc en fait, ça pose la question du niveau de croyance aussi, je pense.
Puisque vous parlez d'aller-retour et qu'on sent que cet endroit-là, qui est le restaurant, est presque le début de tout, vous le disiez tout à l'heure, ça vous permet aussi de faire un aller-retour entre 1956 et 1996. Le restaurant devient une sorte de vaisseau temporel pour nous et pour les comédiens. Pourquoi ces deux dates ?
Alors moi, j'aime beaucoup la citation que vous avez mis au début, là, qu'il y a le passé fiché dans le présent.
Bon, elle vient de séances de travail... Apparemment, c'est vous qui l'a dit.
Ah oui, d'accord.
Elle vient pas de nulle part.
Je disais, ouais, génial. Oui, effectivement, j'aime beaucoup cette idée-là. En fait, parce que justement, moi, je parle jamais de flashback, par exemple. Je disais toujours, parce que le flashback, ça serait comme dire, bon, bah, alors, on va remonter le temps pour aller à une espèce de quête des origines pour comprendre ce qui s'est passé. Alors que non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui n'est pas passé. Comment dans le passé, ce qui n'est pas encore passé? Est-ce que Marie-Antoinette, aujourd'hui, qui est là dans ce restaurant, qui est en train de pleurer, est-ce que un fils qui est mort en 56, est-ce que sa douleur, enfin, est-ce que c'est passé? Enfin, est-ce que c'est du passé? Non, c'est du présent. Et donc, moi, je disais toujours, oui, en fait, c'est pas un flashback, c'est du passé qui arrive. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais en réalité, vraiment, ça me permet de toucher une autre sorte d'émotion, quand même, au plateau. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux périodes? Mais j'ai besoin de ces deux périodes comme j'ai besoin, en fait, de ces deux lieux. En fait, j'avais besoin d'histoire et j'avais besoin de géographie. Voilà, c'est ce que je dis beaucoup. C'est une citation de Toby Nathan, vraiment, qui dit, moi, j'ai pas un problème avec mon père et avec ma mère, j'ai un problème avec l'histoire et la géographie. Ben, moi, j'ai besoin de ça aussi. Et donc, du coup, je sentais de toute façon à l'intérieur de ces Viet Q, qu'il y avait deux espaces, qu'il y avait deux temps, que finalement, eux-mêmes, quelque part, étaient, j'ai pas envie de dire partagé, ce serait trop simple, mais sont faits, voilà, sont faits de deux espaces et sont faits de ces deux temps. Donc pour les raconter,
il fallait les faire exister sur scène,
exactement. Et il fallait que l'un meure dans l'autre, que l'autre naisse dans l'un. Enfin, il fallait qu'il y ait quelque chose où à un moment même, finalement, on se dit mais dans quelle temporalité je suis exactement. Et en fait, vous savez, c'est assez dingue parce que moi, quand j'avais une des personnes que j'ai interviewée, en fait, c'était un ethnopsychiatre. Et en fait, il me disait que je lui racontais, bon, moi, ma mère a fait une crise d'ictus amnésique. Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, du jour au lendemain, enfin là, à un moment, elle ne savait plus en quelle période elle était, où elle était, enfin vraiment. Et en fait, cet ethnopsychiatre, alors j'ai eu des explications quand j'étais à la clinique, qui disait, oui, non, mais c'est peut-être parce qu'elle a trop bougé dans la journée ou quoi. Enfin bon, des explications qui vraiment me faisaient dire qu'en fait, il ne savait pas du tout d'où ça venait. Et par contre, voilà, cet ethnopsychiatre m'a dit, écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une chose qui arrive très régulièrement chez les Viet Q, justement. Et c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, la problématique, quelque part, de ma mère, je sentais qu'elle ne pouvait pas se résoudre ou se manifester, pardon, dans une dépression ou dans un... Non, en fait, par contre, cette crise d'ictus amnésique, le fait de plus savoir dans quelle temporalité on est, dans quel espace on est, ça me paraissait assez évident. Je me dis, bah oui, en fait, c'est bien la...
Parce que c'était littéral. Parce que ça disait ce qu'elle vivait, en fait.
Exactement. C'est tout d'un coup une séparation très concrète de ce qu'elle ne sait plus, si elle est au Vietnam, si elle est en France. Elle ne sait plus si elle parle vietnamien, si elle parle français. Tout d'un coup, elle est, pleine de ce qu'il a fait. Donc, ces deux espaces.
Mais en fait, ce que vous proposez sur scène, d'un seul coup, ce n'est pas... C'est presque cette crise-là, mais qui devient un potentiel de fiction, qui devient pour nous quelque chose qui est au contraire extrêmement vivant. On ne sait plus si on est à Saïgon, si on est à Paris, si on est en 2018, si on est aux ateliers Berthier, si on est dans ce restaurant et où, mais ça n'est pas une souffrance. C'est une très grande richesse. Tout peut apparaître et disparaître et tout peut être vécu. Vous en faites une sorte, comme si vous le transformiez.
Ben, c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, on se dit des choses comme ça avec la compagnie, on s'est dit, tiens, il faudrait que la Céno soit un Viet Q, par exemple, et on s'est dit, il faudrait que la fiction soit une grande crise d'ictus amnésique. Effectivement, on s'est formulé ce genre de choses. Pour répondre, en fait, quand même plus à votre question, je pense que j'avais besoin, justement, après ça, de voir les choses, de voir les espaces, de réconcilier.
Il est beaucoup question de régler ses comptes. Le fils Antoine, il doit régler ses comptes et payer la note d'une certaine manière.
Ouais. Ben alors là, pour le coup, moi, je marquais parce qu'au début, moi, pardon, j'ai aucun compte à régler avec la France. Par exemple, c'est pas du tout ce que. Et d'ailleurs, la question de la colonisation, par exemple, elle est présente dans le spectacle. On ne fait pas semblant d'y aller. Elle est très concrètement, mais elle est là dans le corps des comédiens, dans les récits individuels de chacun. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, moi, j'avais besoin de passer par ces gens-là pour raconter cette histoire politique, parce que du coup, je ne peux pas partir d'un sujet, je ne peux pas partir tout d'un coup de la colonisation et allez, on va piocher dedans. Enfin, voilà, je ne sais pas partir d'un sujet, je suis obligée de partir des gens. Maintenant, pour le personnage d'Antoine, en fait, il cherche un peu, hein. Il est pas complètement. D'ailleurs, il dit à la fin qu'il sait pas vraiment. Il offre un billet d'avion à sa mère, mais en même temps, il sait pas si elle a envie qu'elle reste. En fait, il a envie. Finalement, ça finit. Alors, ça peut paraître ça, mais finalement, c'est quand même la grande question. Il pose la question à sa mère. La dernière, c'est maman, est-ce que tu m'aimes ? En fait, il lui dit, Maman, est-ce que quand tu es vietnamienne, tu m'aimes toujours? Est-ce que vu que je suis le fruit à la fois de ce soldat et à la fois ton fils à toi, quand est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes pleinement? Est-ce que je suis pleinement ton fils? Enfin, et c'est pour ça qu'il est terrifié par cette crise d'ictus, parce que tout d'un coup, sa mère le reconnaît plus. Et donc, il se dit, ah mais mince, en fait, il a l'impression, alors qu'il le savait depuis le début que sa mère était vietnamienne, enfin, tout d'un coup, d'ailleurs, Antoine, il a rien à découvrir réellement. Il n'y a pas tout d'un coup, il va apprendre qu'il est le... Il le sait que son père était soldat, il le sait que son père était... Voilà. Mais par contre, tout d'un coup, c'est comme s'il prenait la dimension du métissage, en fait, de plusieurs voies qui l'habitent, et qui passe par des questions toutes bêtes qui est, mais maman, tu veux être enterrée où, tout d'un coup? Et donc, finalement, Antoine, j'ai pas tant l'impression qu'il a besoin de régler des comptes ou qu'il faut payer la note. J'ai l'impression plus qu'il essaye de comprendre comment toutes ces voix vivent à l'intérieur de lui. Enfin, voilà.
J'ai quand même des souvenirs de l'arrivée de l'armée du Nord, arrivée dans le Sud, dans la rue et dans ma maison, quand ils sont venus inspecter ce qu'il y avait dans la maison, il y a combien de personnes dans la maison, et qu'ils ont brûlé les livres. Mais je me suis dit, avec la rancune, on ne peut pas avancer. Et mes enfants ont quand même une mère vietnamienne. Donc, ils ont une culture vietnamienne. Donc, j'ai envie de faire connaître ça à mes enfants. Maintenant. Alors, les gens me regardent en disant, t'es vietnamienne, tu viens du Sud. Alors, ils attendent. Dans ma tête, j'ai dit, mais moi, je suis une vietnamienne. Je parle vietnamien, donc je suis une vietnamienne comme vous. Alors, je me demande comment je vais me débrouiller pour ne pas heurter ma façon de penser et face à l'idéologie de mes voisins qui sont, eux, ils ont fait la guerre et contre ma famille du Sud. Pour prendre le risque, oui. Je pense que ça vaut le coup.
C'est le témoignage de Madame Thuy au micro de France Inter pour l'émission Partout ailleurs. On entend dans sa prise de parole qu'il y a en effet de la confusion, c'est-à-dire... entre ce qu'on lui renvoie comme identité, ce qu'elle peut revendiquer comme identité, ce qu'elle a le droit de vivre en effet comme pluralité. Et donc on entend aussi la confusion dans la possibilité de transmission, ou bien à la génération qui vient, qui naît en France, mais aussi de dialogue possible avec des voisins qui vivent aussi en France et qui n'ont pas la même histoire qu'elle par rapport au Vietnam. C'est une question, celle de la transmission, que vous posez, Caroline Guéla Nguyen, dans votre spectacle Saigon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans quelle langue? Qu'est-ce qui peut être compris? Il y a beaucoup de moments dans le spectacle où la phrase qui est « je ne comprends pas ce que tu dis, est-ce que tu peux me traduire ?» Quels que soient les personnages, il y a vraiment cette question-là de l'incompréhension, de l'impossibilité à transmettre.
Déjà, sur le personnage d'Antoine, donc pour revenir encore à lui, qui est celui... enfin voilà, qui est la génération suivante, il y a quelque chose qu'on ne lui a pas transmis très clairement, c'est la langue. Et alors pourquoi? Et ça, pour le coup, c'est vraiment des choses que j'ai remarquées chez énormément d'enfants de Viet Q, première, deuxième génération, c'est que en fait, ils avaient tellement peur, les parents, qu'ils ne s'intègrent pas en France, que du coup ils ont dit non, tu parles pas vietnamien, et moi ça a été le cas de mes nombreux cousins et cousines. Donc déjà, de ce postulat-là, il y a quand même quelque chose, au-delà des histoires qu'on transmet, des histoires, il y a aussi tout simplement le fait de ne pas pouvoir ouvrir la langue maternelle de notre mère ou la langue de notre père. Donc quand on est fille comme ça ou fils comme Antoine d'une mère Viet Q, tout d'un coup il y a quand même, au-delà de ce que la personne dit, il y a aussi tout un espace dans lequel vraiment on ne connaît pas sa mère, où tout d'un coup elle est silencieuse, quoi. Et en fait, c'est comme si j'avais, je suis pas devant une personne schizophrène, mais je suis quand même devant une personne qui a deux paysages. Et donc, voilà, il y en a un qui m'échappe. Mais à l'intérieur de ça, je voudrais quand même dire une chose que j'ai remarquée, c'est que, en fait, il y a les voix off du spectacle. Elles ont été écrites de façon particulière, puisque, en fait, j'ai beaucoup entendu donc Duy me traduire du vietnamien au français. Et souvent, j'adorais la façon dont c'était traduit, parce que je sentais que la traduction était encore baignée du vietnamien. Donc, par exemple, c'est un exemple que j'en toujours, il y avait une jeune fille qui était vietnamienne, on était à Ho Chi Minh, qui était en train d'improviser. Elle était triste et elle devait dire à son petit ami « Je suis triste, je suis encore triste. » Et lui me traduit « Elle n'en a pas fini de sa douleur. » Bon, alors déjà, c'est vrai que ça aurait pu être comme ça, sorti d'un livre de Duras. Enfin, tout d'un coup, je sens que tout ce français quasi créolisé, en fait, je le trouve vraiment... Enfin, ça me passionne, quoi. Et je commence à écrire toutes les phrases en traduction. Tout ce qu'il écrit, c'est l'écrit. Bref. Et à un moment, je décide d'écrire les voix off comme ça. Donc, en ayant vraiment ce français-là créolisé, qui me raconte une émotion, j'arrive, grâce à ça, à ouvrir un peu quelque chose de la langue. J'arrive à comprendre quelque chose du vietnamien dans ces images qui transpercent tout ça. Et un jour, je lis les voix off à un ami à moi, en lui expliquant ce système de traduction. Et il me dit, bah, écoute, Caro, ouais, c'est très bien. Il me dit, mais en réalité, ça change pas énormément de la façon dont tu parles. Et en fait, je me dis, ah oui, d'accord, en fait, ma mère ne m'a pas transmis la langue, mais elle m'a quand même transmis quelque chose de la langue. Donc, encore une fois, ce qui est transmis, ce qui est pas transmis, c'est assez complexe. Mais ce goût des larmes, ce qui était le cas dans les anciens spectacles qu'on avait fait avec la compagnie, que ce soit Le Chagrin ou Elle Brûle, bon d'ailleurs ça donne déjà, ne serait-ce que dans les titres, une indication, et ben ça c'est quelque chose, je pense aussi, qui m'a été transmis, même mon goût des fleurs, des choses que je ne savais pas qui ont été là, donc en fait, voilà, c'est très mystérieux finalement, j'ai envie de dire, la transmission quand même, et je n'en finis pas de découvrir des choses. Ça n'est pas une chose qui va être réglée du jour au lendemain. Ma mère, finalement, je me rends compte qu'elle ne m'a pas parlé de choses, mais je me suis demandé si au final, moi, je lui avais vraiment posé des questions, si vraiment j'avais décidé un jour de, voilà, d'écouter ça. Et en posant plein de questions, je pense tout d'un coup à Daniel Fraîche, qui est le directeur de la CAFI, qui est donc, c'est une association vietnamienne de ceux qui sont arrivés justement à Bias, tout ça, en me remémorant quand même tout le trajet des gens qu'on a rencontrés. En réalité, les Vietnamiens, c'est encore autre chose au Vietnam, en fait, ils nous ont énormément parlé de leur histoire. Tout d'un coup, ils lâchaient quelque chose. Et en réalité, je pense que tout simplement, il s'y était fait au fait que leur histoire était devenue invisible. Et ils avaient vécu avec ça. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Bonsoir. Je m'appelle Ha. Ce soir, je suis très heureux d'être là avec vous. Parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais pouvoir rentrer au Vietnam, mon pays natal. Je viens d'obtenir mon visa pour moi et pour ma fille aussi. Ma fille tient à m'accompagner. Nous allons retourner. Et pour ma sécurité aussi. Nous allons retourner au Vietnam, à Saigon. Excusez-moi, je suis très ému. Nous allons partir dans une semaine. Alors, ce soir, je vais chanter pour vous une chanson de M. Christophe que j'aime. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage et dans cet orage, elle a disparu. J'avais dessiné sur le sable
son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai
La chanson de Christophe et ses paroles prennent une toute autre signification dans la voix de Hao qui la chante dans le karaoké du restaurant que vous mettez en scène, Caroline Guéla Nguyen, dans Saigon, le spectacle qu'on peut voir en ce moment aux Ateliers Berthier à Paris. Parce que quand il dit qu'il a crié Aline pour qu'elle revienne, que c'est une personne qui est disparue, que ça lui faisait beaucoup de peine, d'un seul coup, les paroles prennent ce qu'on disait tout à l'heure, l'épaisseur d'un peu de complexité, les choses sont moins simples qu'elles n'y paraissent. Mmh. Alors peut-être pour revenir déjà à cet espace du karaoké que vous, semble-t-il, prenez beaucoup de plaisir à mettre en scène aussi, pourquoi est-ce qu'il était si important ?
Parce que c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est qu'au Vietnam, là où il y a encore des traces de la langue française, ce sont dans les chansons. Et ce sont dans les chansons d'amour. Moi, par exemple, Sylvie Vartan, la chanson qui est à la fin du spectacle, je l'ai découvert à Ho Chi Minh Ville. Ils adorent Christophe et ils continuent à transporter quelque chose de leur douleur à l'intérieur de ces chansons-là françaises. Et moi, j'ai eu envie du coup de mettre ça en scène, mais aussi quelque part, c'est mon goût. Enfin, j'adore ces chansons-là qu'on met dans ce spectacle. Je n'ai pas de recul, par exemple, par rapport à ça. Moi, elles me font tout autant pleurer que les comédiens, enfin que les acteurs, les personnages, pardon. Donc voilà la raison. Puis j'aime toujours ce qui a un côté populaire. Enfin, c'est important pour moi aussi. J'ai envie de dire même au-delà quelque part de la question du Vietnam là, les karaokés, les gens qui chantent ces chansons-là. C'est aussi Ça réunit aussi d'autres personnes. J'aime bien dans la salle sentir que tout d'un coup, les gens connaissent cette chanson, que ça nous réunit. Et c'est fou parce qu'en réalité, là, pour le coup, Christophe, ça réunit des gens qui sont quand même à 11 000 kilomètres jusqu'à des gens qui sont en bas de chez nous. Donc c'est assez beau des fois aussi de retrouver ce qui est, ce qui fait encore, ce qui est en commun.
Dans le petit moment qui précède sa chanson, Hao dit qu'il nous annonce une grande nouvelle, qu'il va rentrer au Vietnam. Mmh. Cette question du retour, elle se pose pour toutes les personnes qui un jour vivent l'exil, que ce soit un retour souhaité, un retour impossible, un retour fantasmé, un retour silencieux. Ça devient un retour qui serait qualifié de quoi pour Hao, selon vous ?
Moi, j'ai... Quand même, je pensais... Alors déjà, il dit quelque chose d'avant, un tout petit peu avant, ça pourrait avoir répondre à votre question. Il dit, parce que ma fille, elle craint pour ma santé et pour ma sécurité. Et je voudrais vous raconter une chose, c'est que dans les comédiens qui sont partis, là, je tairai le nom de qui exactement, mais qui sont retournés au Vietnam, en fait, il y a un des comédiens qui avait peur d'être sur une liste noire. Donc d'être sur une liste qui ne pourrait pas passer les douanes. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit au début, je me suis inspirée de ça. Et donc nous, on s'est dit, ah oui, parce que comme de fait, les Viet Cue qui sont partis, en tout cas pour la plupart, comme ma mère par exemple, c'est quelqu'un qui avait la nationalité française, donc qui était contre, effectivement, ou en tout cas qui était en opposition, effectivement, avec Ho Chi Minh, enfin voilà. Et donc ils avaient peur d'être sur des listes, voilà. Et je me suis dit, nous on s'est dit, bon alors ça, comment est-ce qu'on fait pour le prendre en compte? On est en 2017, il faut qu'on parte répéter pendant un mois là-bas, est-ce que du coup on prend le risque d'arriver à l'aéroport et tout d'un coup il y a quelqu'un qui soit refusé, tout ça, bon. En fait, tout s'est bien passé, mais je voudrais quand même raconter quelque chose sur ça, c'est que finalement on n'a jamais su, bien sûr, si cette personne était sur une liste noire ou pas. Mais au final, ce qui était intéressant, c'est de se dire, est-ce que quelque part... Se dire qu'on fait encore partie d'une liste au Vietnam, même si elle est noire, c'est qu'on est quand même encore inscrit quelque part dans le pays. C'est que le pays ne nous a pas oubliés. Est-ce que finalement, des fois, le fait de, en tout cas pour ce cas-là, de se dire, bon, il avait peur d'y retourner, est-ce que c'était pas une façon de se dire, non, mais de toute façon, voilà, ils ne m'ont pas oublié. Donc, le retour de Hao, je pense que dans le spectacle, il y a déjà de ça, c'est de vérifier que quelque chose de lui est encore là-bas, mais ça a tellement changé, c'est ce qui est montré, ne serait-ce donc déjà en plus Hao a oublié le vietnamien, il parle plus la langue. Mais aussi, des fois, je pourrais tout simplement citer là des choses très communes, d'ailleurs c'est assez beau, on a parlé de ça avec les comédiens vietnamiens, mais du retour d'Ulysse. C'est-à-dire Ulysse, quand il revient chez lui, il y a que son chien qui le reconnaît, sa femme le reconnaît pas, et puis tout d'un coup, en réalité, Ulysse, il a retrouvé sa femme, et puis après, il repart tout de suite. Enfin, il y a quelque chose comme ça, où il en a tellement rêvé de ce retour, et finalement, Edune, et tout le monde a tellement rêvé qu'il revienne, et au final, bon, personne ne le reconnaît, et en plus, il repart en voyage, il refait ses valises 2 semaines après. Donc voilà, il y a quelque chose de ce retour d'Ulysse qui m'intéressait pour le coup, sans vouloir universaliser la chose, hein, ça se travaille jamais comme ça, mais tout d'un coup, d'ailleurs, je connaissais pas très bien l'Iliade et l'Odyssée, et ça m'a permis de rencontrer vraiment ça, cet espace-là de récit.
L'idée du livre, c'était, enfin, l'absence déjà à rendre concrètement, c'est très difficile, enfin, vu que ça n'existe pas concrètement. Donc c'est juste des ressentis. Donc pour faire le portrait d'une absence, je suis partie de toutes les émotions qu'on peut ressentir au fur et à mesure qu'elle apparaît, qu'elle s'installe. Mais en tout cas moi pour créer, j'ai besoin aussi beaucoup de documents. Donc j'ai été me documenter sur tout ce qui apparaît dans l'art, dans l'histoire de l'art pour refléter un peu des idées d'intime ou de... Quand je dessine quelque chose ou que j'écris, c'est assez dur de mettre les sentiments personnels ou l'expérience personnelle tout cru dedans. Donc pour moi, c'est important de mettre une distance pour que le spectateur, le lecteur, celui qui est en face puisse s'approprier et se projeter dedans, y mettre son sens à lui. À la fin du livre, il y a un drap sur un miroir. Et normalement, quand on pose un drap sur les miroirs, c'est pour que les esprits puissent quitter le mort, la terre, pour qu'ils ne restent pas enfermés dans un reflet.
C'est la voix d'Anna Boulanger qui a publié un livre qui s'appelle précisément L'absence, où, comme elle l'explique, tous ces dessins sont peuplés des absents et peuplés même de l'absence de manière générale. On peut considérer que votre décor, que votre pièce, Saïgon, Carunguilla Nguyen, est peuplée des absents. Et comme le dit à l'instant Anna Boulanger, l'absent devient une sorte d'espace de projection pour nous. Et d'un seul coup, ce sont tous nos absents qui nous manque. Ce n'est pas seulement les disparus du Vietnam ou les disparus en France ou les vies qui sont tuées, mais l'ensemble des absents qui viennent à manquer dans ce spectacle-là. Est-ce que vous diriez que c'est dans ce sens que vous avez travaillé ?
Alors, c'est pas dans ce sens que j'ai travaillé, mais je suis très heureuse que ce soit ça qu'on ressente vraiment. Et pourquoi c'est pas dans ce sens ? Parce que en fait, c'est marrant, je disais justement tout un petit peu avant que moi, je ne
travaille pas vers l'universalité.
Exactement. Universalité. Voilà, je travaille pas vers l'universalité. Franchement, pour moi, c'est un terme qui est complètement galvaudé. Je trouve qu'à l'intérieur de soi-disant ce qu'on appelle universalité, quand on parle par exemple de Molière ou de Shakespeare, c'est des auteurs que j'aime bien, c'est pas la question, mais je trouve qu'au finalement, ça laisse énormément de gens de côté et que je ne sais plus à qui appartient l'universalité. Et là, pour reprendre encore Toby Nathan, il dit l'universalité, c'est quelque chose qu'on ressent d'être humain à être humain là tout de suite maintenant. Il y a même pas à l'expliquer. Et moi, du coup, au contraire, Saïgon, c'est ça qui, c'est qu'on a travaillé ce spectacle, mais au plus petit, au plus précis, on est allé dans un restaurant vietnamien, 18 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. Enfin, je veux dire, ça part de là, notre fiction. Après, on part en 56, 96, tout ça, mais on regarde les gens à leur endroit très précisément. Et, finalement, c'est en partant de ce plus petit, que tout d'un coup, effectivement, je sens à la sortie des spectacles, il y a énormément de personnes, par exemple, qui nous parlent de l'Algérie. Énormément. Des gens qui sont soit des pieds noirs, soit des Algériens, soit des Français d'origine algérienne, soit sûrement des enfants dont les parents étaient soldats, dont le père était soldat. Aussi parce que je pense qu'il y a cette mémoire qui est irréconciliée par rapport à l'Algérie. D'ailleurs, ça pose la question, est-ce que j'aurais le courage, par exemple, un jour de ramener de l'imaginaire sur l'Algérie par rapport à la question du tout début. Qu'est-ce que ça impliquerait ? Est-ce que si le spectacle s'était appelé Alger, est-ce que j'aurais eu la même liberté d'imaginaire que s'il s'appelle Saïgon ? Ça, c'est une question que je me pose. Bref, en tout cas, je suis très heureuse que ça se peuple des autres absents que ceux de Marie-Antoinette et de Hao et de Mai et de tous ces Viet Cui français et vietnamiens au plateau. Mais non, ça n'est pas vers ça qu'on est allé, mais je constate que ça permet quand même à des gens, et que ce soit en France et à l'étranger, de retrouver quelque chose d'eux.
Moi, je pense que on peut essayer de capter, de saisir, de rapprocher le spectateur. Je prendrais cet exemple du rapport physique aux choses, c'est-à-dire de mettre le spectateur tellement près qu'il est dans un rapport de familiarité avec l'objet qui lui est représenté, l'objet ou les corps, les figures, les êtres qui lui sont représentés. Et dans cette familiarité, dans cette proximité, il y a un lien qui se crée très fort. Il y a quelque chose qui fait que l'attention du coup du spectateur est capturée, est prise. C'est ce que je cherche. Je cherche ça sans doute pour tenter des expériences avec le spectateur, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est pas être démurge, c'est pas être malfaisant. Démurge peut-être, mais en tout cas pas malfaisant. C'est parce que moi, comme spectateur, j'aimerais qu'on opère ça sur moi. Ça m'intéresse. Surtout si la finalité de cette expérience-là, elle est tournée vers une réflexion, vers des remises en question, vers des ouvertures du regard, vers un travail sur mon regard. Si un artiste m'amène à bousculer mon regard, j'ai envie de lui dire merci, merci. Parce que ce dont je peux souffrir, ce dont je crois nous pouvons souffrir, c'est d'être enfermés déjà en nous-mêmes, en tant que comme femme citoyen, c'est être déplacé sans violence, sans brutalité, sans hypnose, sans manipulation profonde, c'est fabuleux, c'est génial. Si l'art théâtral peut permettre ça, c'est extraordinaire.
Et on termine avec une archive de Joël Pomera en 2013 au micro de Joël Gaillot, pour parler du déplacement et de la manière dont l'art ou le théâtre peut agir sur notre regard ou sur nos regards. Vous disiez n'avoir pas travaillé dans une direction d'universalité. Avez-vous travaillé dans une direction qui veillait à nous déplacer un peu, et dans ce cas, à quel sujet? Avec Saïgon.
Moi, j'ai l'impression de dire toujours un peu la même chose, c'est que moi, la seule chose que je déplaçais, c'est le fait de ramener ces gens-là au plateau et de ramener cette langue-là, et que de travailler avec. Enfin, voilà, ça, j'ai toujours l'impression un peu de me répéter sur ça, mais c'est vrai que c'est la seule chose qui, tout d'un coup, je sentais quand on était en train de créer que. C'est quelque chose d'un peu nouveau. Mais d'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Ça rejoint peut-être la question de l'imaginaire qu'on avait au début là, parce que ça me questionne savoir justement pourquoi l'imaginaire serait si politique, tout ça. C'est que vous savez, quand on a commencé, j'ai deux exemples à dire. Quand on a commencé à créer Saïgon, on avait par exemple l'image du, on avait le soldat. Dan, il arrivait en soldat, tout ça. Et en fait, c'était fou de constater que les seules images sur lesquelles on pouvait se référer, parce que souvent quand on parle, on dit « Ah oui, mais c'est vrai, tu sais, ça fait penser à tel dans un film de machin, de tout ça. » Les seules images qu'on avait pour se référer, alors qu'on parlait quand même l'Indochine de la France, c'était les images des Américains. On pensait tout de suite à Voyage au bout de la nuit, Apocalypse Now. On était sec de quelque chose qui nous viendrait de l'imaginaire du Vietnam avec la France. Alors oui, d'accord, il y a Indochine, bon, mais c'est peu, en fait, finalement. Donc, voilà, il y a ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi en lien dans peut-être ce que ça déplace chez le spectateur. Enfin, c'est que du coup, bah là, on crée l'imaginaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On recrée peut-être une. On ça permet peut-être à ce spectacle. Enfin, je l'espère. Bah, tout d'un coup, que ça crée cette ouverture-là. Maintenant, peut-être que les gens, quand ils s'imaginent, quand ils voient un Vietnamien derrière en cuisine, bah, tout d'un coup, ils n'ont pas uniquement une femme et un bouboune dans la tête. Enfin, ils ont tout d'un coup, bah, voilà, ce récit-là, ça ouvre vers d'autres choses. Bon, voilà, ce qui fait que peut-être, moi, là, la responsabilité que j'avais, je sentais très fort, c'est que, vous savez, quand j'écrivais Saïgon, je me disais, ah oui, enfin, il y a eu des moments où j'ai dû abandonner des histoires. Et par exemple, j'ai d'autres histoires que j'avais imaginées. Et en fait, je me suis dit, c'est fou à quel point là, le fait d'abandonner certaines histoires, eh ben, ça me faisait vraiment mal au cœur. Parce que je me disais, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont re-être racontées. Il y a quelque chose, je sentais que le choix de raconter, ben, voilà, il était peut-être un tout petit peu plus, comment dire, oui, j'avais plus, je sentais cette responsabilité un peu plus sur mes épaules, je me disais, bon, ben là, si je laisse tomber l'histoire de How Am I, eh ben, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera racontée, dans combien de temps elle sera racontée.
Merci beaucoup. Votre spectacle Saïgon se joue en ce moment aux ateliers Berthier, Théâtre de l'Europe à Paris. Et ensuite, vous partez pour une grande et généreuse tournée, par exemple du 21 au 23 février à Rouen, du 6 au 9 mars à Dijon, du 13 au 14 mars à Valence. Et puis on mettra toutes les autres dates sur le site internet de l'émission. Par les temps qui courent, où s'asseoir pour pleurer tranquillement?
Dans sa cuisine.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vraiment vous donne beaucoup d'espoir?
Je ne sais pas. Là, le fait que, effectivement, je vais parler de Saïgon, tant pis. Le fait que je vois des gens du 13e arrondissement mettre les pieds pour la première fois dans un théâtre national, ça me donne beaucoup d'espoir.
À moi aussi. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec le réalisateur et auteur Jonathan Little. Ce soir, au son, c'était Benjamin Vignal. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Jeanne Léos, Corinne Amar, Laure Chastain préparent cette émission avec moi et je réponds @marie-richeux sur Twitter. Qui l'appelle